CKIA FM. Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 26 avril 2024. À partir de ce soir, 22h jusqu'à lundi 5h30, le pont de Québec sera complètement fermé à la circulation. Des travaux de drainage et de réfection de la chaussée sur la route 175 exigent cette fermeture. La piste polyvalente du pont de Québec demeurera, elle, ouverte. Une navette sera disponible pour les cyclomoteurs tels que les mobilettes qui désirent traverser sur la rive sud. Le ministère des Transports invite les usagers de la route à emprunter le pont Pierre-Laporte et de prévoir plus de temps pour leur déplacement. On peut vérifier l'état de la circulation en consultant Québec 511. Les collègues de Mont-Saint-Roch ont appris que l'espace du Parvis, ce parc public situé au coin des rues du Parvis et de la Salle, se nommera désormais Parc des Pécans. Des suggestions avaient été émises à l'attention du comité de toponymie de la Ville de Québec en juin 2023. Si le nom Persbitume avait tout d'abord retenu l'attention du comité, les citoyens et citoyennes ont demandé à être plus impliqués dans cette décision, puisque le parc a été créé à leur initiative. Un vote des enfants organisé par le comité d'animation de l'espace du Parvis a finalement penché pour Parc des Pécans. Rappelons que les équipes sportives de l'École des Berges, situées à proximité du parc et accueillant les enfants du quartier Saint-Roch, portent le nom de Pécan. Si lors de votre ménage du printemps, vous découvrez un stock de sacs réutilisables, conservez-les. Le Centre du Rocher serait ravi de vous en délester. Ces sacs leur sont utiles pour la friperie communautaire ainsi que pour le service de dépannage alimentaire. Apportez directement vos sacs en bon état au Centre du Rocher, situé au 680 rue Raoul-Jobin. Ce soir, devant le Parlement, se tiendra une manifestation pour la libération du rappeur iranien Toumadj Salehi. Celui-ci a été condamné à mort pour sa participation aux manifestations Femmes, Vie, Liberté en Iran à l'automne 2022. Ces manifestations avaient été déclenchées par la mort de la jeune Mahsa Amini, molestée par la police des mœurs à cause de sa tenue vestimentaire. On écoute Fouad Ghodarzi, vice-président de CIMORG, le centre socio-culturel iranien.
L'une des raisons pour laquelle le régime islamique d'Iran exerce tellement de pression sur le Toumadj, parce qu'il est l'un des icône de Femmes, Vie, Liberté. En exerçant telle pression sur le Toumadj, le régime vous exerçait une pression sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est pour ça qu'on est en action si grave à l'heure actuelle.
Rendez-vous donc dès 16h30 devant le Parlement. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bon vendredi à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Il m'arrivait pourtant, parfois, de sentir que la compagnie la plus douce et la plus tendre, la plus innocente et la plus encourageante pouvait se trouver auprès de n'importe quel objet naturel, même pour le plus mélancolique des misanthropes. Il ne peut éprouver mélancolie très noire l'homme qui vit au cœur de la nature et est encore en possession de tous ses sens. À l'oreille saine et innocente, il n'y eut jamais tempête qui ne fût également la musique d'une harpe éolienne. Rien ne saurait réellement pousser un homme simple et brave à la tristesse vulgaire. Tant que je jouis de l'amitié des saisons, je sais que rien ne saurait venir faire de ma vie un fardeau. La douce pluie qui arrose mes haricots et m'enferme aujourd'hui sous mon toit n'est pas morne et mélancolique. À moi aussi, elle fait du bien. Elle m'empêche, certes, de sarcler mes plants, mais elle est d'une valeur bien supérieure à celle de mon sarclage. Même si elle persistait assez longtemps pour faire pourrir les graines tombées par terre et pour détruire les pommes de terre qui poussent un peu plus bas, elle serait encore propice à l'herbe qui pousse dans les hauteurs. Et étant propice à l'herbe, elle me serait propice à moi. Parfois, lorsque je me compare aux autres hommes, j'ai l'impression d'avoir reçu plus de faveur des dieux qu'aucun d'entre eux, au-delà de tout mérite que je puisse percevoir. J'ai l'impression d'avoir reçu des dieux une garantie et une sécurité dont sont privés mes frères humains. J'ai l'impression d'avoir des guides et protecteurs à mon service privé. Je ne me flatte pas, bien au contraire. Si la chose est possible, ce sont eux qui me flattent. Je ne me suis jamais senti esselé ou d'une quelconque manière affligé par un sentiment de solitude. Qu'une seule et unique fois, c'était quelques semaines après avoir aménagé dans les bois. Pendant une heure, je me suis demandé si mon voisinage humain, proche, n'était pas essentiel à une vie saine et sereine. Ma solitude m'était désagréable, mais en même temps, je percevais clairement une forme de dérèglement de mon humeur, et j'avais le net sentiment que cela ne durerait pas. Et c'est plongé dans ces pensées, sous une petite pluie fine, que j'ai pris soudain conscience de la compagnie douce et bienfaisante que m'offrait la nature. À travers la caresse même des gouttes et à travers chaque son, chaque chose à voir autour de ma maison, elle m'offrait tout d'un coup une amitié inexplicable et infinie, comme une atmosphère qui m'enveloppait et me soutenait, rendant insignifiant les supposés avantages du voisinage humain auxquels je n'ai depuis plus jamais repensé. La moindre aiguille de pain enflait, se gonflait de sympathie pour moi et se faisait mon ami. Je devins si clairement conscient de la présence de quelque chose de familier autour de moi, y compris dans des situations que nous avons coutume de décrire comme sauvages et lugubres, conscient aussi que l'être le plus humain et le plus proche de moi par le sang n'était ni une personne ni un villageois, qu'il me semblait qu'aucun endroit ne pourrait plus jamais m'être étranger.
Il a perdu son frère, et moi, mon enfant. La vie est cruelle ici-bas. Je le vois. Il cache ses pleurs, pendant que moi, je brûle d'une infinie douleur. Tu étais mon enfant, le visage de la joie. Tu étais mon soleil, la lumière des ruisseaux. Tu étais plus beau. Tu étais le vent qui se met à chanter. Tu étais le sourire où
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on a Jacques Sénécal qui va être de retour pour nous parler d'Épicure, plus précisément d'un livre écrit par le philosophe Marcel Conche qui s'intitule Épicure en Corrèze, qui parle d'un parcours d'un épicurien. Au niveau de la musique, tantôt, j'avais... de l'album de Richard Séguin, Retour à Walden, c'était Joran qui chantait Mon enfant. Cette pièce-là, c'est relate l'histoire de Emerson, de la femme d'Emerson, en fait, et Emerson qui avait perdu un enfant. Et la chanson, c'est un peu comme la complainte de Madame Emerson. Bon, avant d'aller avec Jacques Sénécal, petite revue de presse. Sous revue de l'actualité. On a eu, évidemment, en fait, semaine dernière, en fait, c'était lundi, le jour de la Terre, puis on a eu une marche dimanche dernier qui est partie des plaines d'Abraham pour se rendre jusqu'au Parlement. Et la température n'était pas idéale. On a eu de la neige, de la pluie, de la grêle, mais un peu, quelques éclaircies, puis même un peu de soleil à un moment donné. Mais il pleuvait. Alors, ça prenait des courageux. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait qu'il y avait un peu moins de monde qu'à l'habitude. Les marches pour le climat, en tout cas, j'ai vu des assez grosses foules. Mais on était quand même, je dirais, quelques centaines, 300-400 à peu près. Donc, c'était une belle marche, un événement agréable. Ensuite, dans les événements, c'est cette semaine, on a la conférence mondiale sur la plastique. On est supposé de décider d'une espèce d'entente mondiale là, sur le contrôle de cette pollution-là qui est incroyable. En fait, on pourrait dire qu'après les changements climatiques, le principal problème écologique, c'est le plastique qui est rendu partout. Il y avait un beau reportage en fin de semaine à Télé-Québec. Je ne sais pas s'il y a moyen de le revoir, là, mais on voyait en Indonésie, entre autres, où on exporte les pays riches, envoient leur plastique-là pour se faire recycler, mais c'est épouvantable. Ils sont envahis de plastique, les rivières remplies de plastique. En tout cas, c'est vraiment épouvantable, le plastique. Et comme... on le voit partout dans nos vies, c'est un gros défi. Il va falloir y aller par petits pas, par réglementation sur certains plastiques qui sont peut-être comme dans des plastiques à usage unique qu'il faudrait commencer ou éliminer progressivement. En tout cas, il va y avoir une réflexion là-dessus. Puis on, dans le reportage, on parlait des microplastiques qui sont partout. Semblerait qu'on en a tous les êtres vivants, presque on en a dans notre corps. Puis on ne sait pas ce que ça fait, mais il semblerait que ce n'est pas très, très bon. On n'est pas certain. En tout cas, il y a des études qui se font là-dessus, mais moi, je pense que ce n'est pas très bon pour la vie en général. En tout cas, à suivre le dossier du plastique. Justement, j'ai dans ma revue de presse, il y avait un article dans le Devoir de mardi, record mondial sur le plastique. Ottawa accueillera quelques 175 pays cette semaine afin de débattre de cette pollution croissante. Les délégations de quelques 175 pays convergent cette semaine vers Ottawa pour tenter de faire progresser un premier accord mondial afin de s'attaquer au fardeau environnemental que représente le plastique, une matière omniprésente dans notre vie, dans nos vies, mais qui constitue une menace de plus en plus sérieuse pour les écosystèmes et le climat de la planète. D'ailleurs, il y avait un article aussi dans le Devoir de samedi du Capitaine Kirk, James Kirk, de Star Trek, qui, lui, est un des... sa cause, en tout cas, qu'il défend. Et il y a un bel article dans le Devoir de samedi dernier. Alors, on dit dans l'article de mardi, si le capitaine James Kirk visitait la Terre aujourd'hui, il l'appellerait sans doute la planète plastique. Des hautes montagnes aux fosses océaniques les plus profondes, en passant par l'air que nous respirons et le sang qui circule dans notre corps, cette substance éternelle s'est avérée être l'ultime vainqueur de la course à travers le temps et l'espace, déplorait samedi dans Le Devoir l'acteur William Shatner, qui a incarné le capitaine James Kirk dans Star Trek et qui milite depuis plusieurs années contre la pollution plastique. En lien avec le dossier du plastique, toujours dans le Devoir d'aujourd'hui, Guilbeault ne veut pas forcément un plafond sur la production de plastique. La question divise les États réunis à Ottawa pour en négocier les termes d'un traité mondial. Contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias, le ministre de l'Environnement, Sylvain Guilbeault, ne croit pas que le traité mondial pour mettre fin aux déchets de plastique doit nécessairement inclure un plafond à la production. « Je ne suis pas contre l'idée d'un plafond, mais je pense qu'on n'est pas rendu là encore », spécifie-t-il. Alors, c'est tout un défi, ça, le plastique, parce qu'il est partout. Puis, il y a des endroits où on ne voit pas comment on va pouvoir s'en passer. Alors, ça sera une stratégie là, qui va tenir compte probablement de la réduction d'utilisation de plastique à usage unique, le recyclage, etc. Mais M. Guilbeault lui-même le dit, le recyclage, c'est pas la solution. C'est une partie de la solution, mais c'est loin d'être la solution. Dans le Devoir de jeudi, au secours d'une rainette vedette, on avait parlé la semaine dernière, depuis maintenant 10 ans, des scientifiques du Biodôme de Montréal travaillent au sauvetage de la rainette Faux-Grillon en pilotant un programme de reproduction de l'espèce en captivité. Des milliers de petites grenouilles ont ainsi pu être relâchées. Mais pendant ce temps, leur habitat continue d'être détruit au nom de l'étalement urbain. On en a parlé, là, c'est à Longueuil. Pas à Longueuil, oui, à Longueuil. On veut tout simplement agrandir une rue, puis ça va détruire un milieu humide où c'est un des principaux lieux de reproduction de la rainette Faux-Grillon au Québec. On va le détruire. Puis une des solutions que la ville de Longueuil a prises, c'est d'essayer d'aller chercher des rainettes pour les amener au biodôme. Mais là, c'est un peu boiteux, je trouve, comme solution. C'est à suivre. Dans le dossier des changements climatiques, l'Asie du Sud-Est étouffe sous la chaleur. C'était dans le Devoir d'hier. La canicule est exacerbée par El Niño qui provoque des poussées de mercure proches des records. La vague de chaleur extrême en Asie du Sud-Est a entraîné la fermeture de milliers d'écoles aux Philippines, confiné les Thaïlandais chez eux et poussé des fidèles musulmans à prier pour la pluie au Bangladesh. Avril est considéré comme l'un des mois les plus chauds dans ces pays, mais cette année, la canicule est exacerbée par le phénomène climatique El Niño, qui provoque des poussées de mercure proches des records. On parle de... Ici, on dit « Il fait si chaud qu'on ne peut pas respirer », témoigne Erline Tamaron, 60 ans, qui travaille dans une station balnéaire au nord des Philippines, où la température ressentie atteint mardi 47 degrés Celsius. Les températures ressenties, prenant en compte, outre la température, différents facteurs météorologiques comme le vent ou l'humidité, devraient atteindre 42 degrés ou plus mercredi dans au moins 30 villes et municipalités des Philippines. Alors, ça aussi, là, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Voilà. Ensuite, dans le Devoir de mardi, la santé des travailleurs plombés par les changements climatiques, près de 23 millions d'accidents du travail attribués à une chaleur excessive sont signalés chaque année, selon l'Organisation internationale du travail. Les changements climatiques, on n'a pas fini d'en parler, évidemment. Et finalement, dans le Devoir, toujours de mardi, aider les jeunes à développer une solidarité écologique, les enseignants du préscolaire primaire et du secondaire ont désormais accès à une formation qui les aide à faire entrer leurs élèves en relation avec la nature. C'est ça, c'est qu'on a beaucoup, dans les écoles, tendance à parler des problèmes écologiques, ce qui crée de l'éco-anxiété. Et là, les chercheurs trouvent qu'on devrait aussi aider les enfants, les jeunes à justement entrer en contact avec la nature pour réduire l'éco-anxiété. Des recherches ont d'ailleurs montré que le contact direct avec la nature produit des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique des jeunes, en plus de favoriser des apprentissages. Et la recherche a démontré que ça générait un sentiment de bien-être de faire partie de ce grand corps du vivant en renchérie, Mme Boellen, et aussi une attitude beaucoup plus constructive et positive à l'égard de l'avenir, à l'égard des enjeux des changements climatiques. Quand on parle d'environnement dans les écoles, a-t-elle fait le remarquer, on en parle souvent comme d'un problème ou comme de quelque chose qu'on doit gérer. La nouvelle pédagogie qu'elle propose vise plutôt à aider les jeunes à comprendre qu'ils font partie du vivant. Le programme ne travaille pas seulement avec le cognitif, mais aussi avec le registre des émotions qui accompagne le fait de se sentir vivant. Article intéressant dans le Devoir de mardi dernier. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va parler des piqûres avec Jacques Sénécal.
De ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une
étoiles filantes. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit forme et on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Alors, c'était les Cowboys Fringants. C'est un petit clin d'œil que je voulais faire parce qu'ils viennent de sortir un dernier album qui apparemment est très touchant. Est très beau, je l'ai entendu un peu hier, alors peut-être d'ici la fin de l'émission, pas aujourd'hui, mais je veux dire la fin des émissions de ce printemps, on va passer quelques pièces de cet nouvel album-là. Alors, allons-y avec Jacques Sénécal. Jacques, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis là présent.
Et oui?
Eh bien, je vais vous parler justement de... d'un livre en particulier, Épicure en Corrèze, c'est écrit par Marcel Conche, et il n'y a pas de différence beaucoup entre le mode de vie d'Épicure et le mode de vie de Marcel Conche. Marcel Conche est un philosophe moderne qui est mort, en fait, il y a quelques années, en 2022. Il avait presque 100 ans, il avait 99 ans et 11 mois. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu notre siècle. Marcel Conche, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit des livres sur l'histoire de la philosophie. Il s'est beaucoup tourné vers les Grecs, vers Montaigne aussi. Il a écrit beaucoup de livres sur la métaphysique. Par exemple, le sens de la philosophie à l'infini, pour donner quelques exemples. Puis il a aussi écrit beaucoup de livres sur la philosophie morale, sur l'éthique. Bref, c'est un philosophe important, d'une grande importance. Qui est décédé récemment, mais qui a laissé sa marque. Moi, personnellement, je l'ai lu beaucoup, puis il m'a beaucoup influencé, et on va justement parler de lui aujourd'hui, de Marcel Conche, mais aussi d'Épicure, parce qu'il n'y a pas de grande différence dans leur mode de vie. Je vais vous lire, je vais commencer par vous lire l'avant-propos une partie de l'avant-propos de ce livre qui s'appelle Épicure en Corrèze, qui est écrit en 2017, je pense, 2016, 2014 plus précisément. Alors, je vous lis un extrait et ça va nous montrer, nous expliquer de manière évidente que Marcel Conche a vécu comme Épicure dans un département qu'on appelle la Corrèze, un département français qui est de la France profonde. Je vous lis ceci. Cette simplicité de vie, je veux la vivre par choix, non pas être à la remorque du progrès, mais rester sur place en le laissant aller. Épicure pensait qu'en son temps, l'état de la civilisation était suffisamment avancé afin que l'on n'ait tout ce qui est nécessaire pour être heureux, et donc que l'on pouvait, chacun pour soi, arrêter la marche du progrès et de l'opinion populaire. Or, ce qui était vrai à l'époque d'Épicure, nous dit Marcel Conche, l'est encore plus aujourd'hui dans nos pays. La plupart des gens ont ce qu'il faut pour être heureux s'ils savent vivre en philosophe. Pour cela, une seule condition est nécessaire: stopper notre dépendance à l'égard du progrès, de l'opinion publique, de la publicité, de la propagande, mettre fin à notre envie de bénéficier des innovations qu'il apporte. C'est ce à quoi je m'évertue. Mais ce qui était facile au temps d'Épicure ne l'est plus aujourd'hui. On peut vivre sans four micro-ondes, mais pas sans téléphone. Il faut pouvoir composer les apports des avancées techniques en technologie nous sont essentiels. Perdus dans la campagne, que ferais-je sans ma Clio? L'être humain est entraîné par le fleuve. Il ne peut rester sur la berge. Demeure l'inspiration que l'on doit à Épicure. Renoncer, nous dit-il, à ce qui n'est pas indispensable. Four et micro-ondes, lave-vaisselle, appareils photo numérique, smartphone, e-mail, journaux, télévision, voyages touristiques et polluants pour la planète, etc. C'est ce que je fais. Alors, on voit bien que Marcel Conche, dans le fond, est un épicurien qui va vivre au fond de sa campagne, là où il a toujours vécu et là où il est mort, pour ainsi dire, mais sans nécessairement y rester, puisqu'il a travaillé dans plusieurs universités, dans plusieurs collèges de prestigieux français, et il a écrit beaucoup de livres, et il a acquis une célébrité très considérable à partir des années 60 et 70. Alors, Conche, donc, c'est la simplicité volontaire. Alors, il nous dit, une vie simple est une vie philosophique. Pour lui, la philosophie est la vie d'une simplicité volontaire, ce qu'on appelle, nous, la simplicité volontaire, c'est une vie philosophique. Une vie simple, c'est une vie qui est proche de la nature. Il dit ceci: je suis toujours extrêmement heureux dans les bois. Je me demande même si j'en suis jamais sorti. Un exemple pour illustrer cela: son père, qui était maire d'Altiac, là où il est né, voulait couper des arbres pour élargir une route. Marcel Conche, tout jeune, il avait 10 ans, il s'est fortement opposé. Et il s'est opposé comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai toujours défendu les arbres et la nature, dit-il. Et pour lui, vivre proche de la nature, vivre simplement, c'était l'essentiel de sa vie. Il nous dit ceci: silence, solitude sont au fondement de la condition humaine, de la vie humaine toute simple. J'ai toujours aimé vivre simplement. Je n'ai jamais envié quoi que ce soit à qui que ce soit. Les distractions culturelles m'ont toujours été secondaires. Le spectacle de la nature me suffit. Alors, pour lui, comme pour Épicure, le vrai plaisir, donc, c'est pas celui que procurent les choses, les distractions, ou encore les plats gastronomiques, les plats cuisiniers, mais celui que l'on éprouve à manger quand on a très faim, ou à boire quand on a très, très soif. Un épicurien strict, nous dit-il, ne cuisine pas, il s'occupe de son potager. Et il nous raconte une anecdote. Le vrai plaisir, dit Épicure, n'est pas celui que procurent les plats cuisiniers, mais celui qu'on éprouve à manger, ayant très faim ou très soif. Un épicurien strict ne cuisine pas. Tous les invités sont obligés de chercher le sel chez moi. S'il y a du poisson et du vin, je peux alors me passer de l'eau et du vin. Et c'est ce que fait, c'est ce que vit quotidiennement, comme Épicure, Marcel Conche. Et il ajoute ceci, que valent les lois humaines par rapport aux lois naturelles? Alors pour lui, il fait une distinction entre les lois humaines, ou ce qu'on appelle communément les droits de l'homme, les droits de Dieu pour certains religieux, par exemple les juifs, les musulmans, l'islam, en fait, pour qui les droits de Dieu passent avant les droits de l'homme. Mais lui, au-dessus de tout ça, au-dessus des lois humaines, au-dessus des lois de Dieu, il met les droits de la terre, les droits de la nature. L'homme a besoin donc de la philosophie pour revenir autant que possible à la nature. Alors, ça résume un peu ce que veut nous communiquer Marcel Conche dans son livre Épicure en Corrèze. D'ailleurs, Épicure en Corrèze, ce n'est pas un titre qu'il a choisi lui-même. C'est un titre qui lui a été proposé par son éditeur. Parce que Épicure aurait jamais, pas Épicure, mais Marcel Conche aurait jamais osé se présenter comme étant un Épicure moderne. Il est un philosophe humble, malgré sa célébrité. Alors, bien entendu, Marcel Conche, il est proche de la nature, il a développé une philosophie, une métaphysique, pourrait-on dire, qui s'appelle le naturalisme. Et c'est très intéressant d'en connaître les grandes lignes, ce qu'il explique d'ailleurs dans plusieurs de ses livres, mais aussi d'une manière concentrée dans ce petit livre-là de 275 pages qui s'appelle Épicure en Corrèze. Alors, pour lui, le naturalisme, qui est sa philosophie, qui est sa métaphysique, ce n'est pas un matérialiste, parce que pour Marcel Conche, on ne peut pas savoir aujourd'hui scientifiquement ce qu'est vraiment la matière. C'est toujours à découvrir. Mais on sait très bien que la nature est infinie puis indéfinie. Et là-dessus, il se considère très épicurien, puisqu'il répète un peu ce que Épicure nous dit dans son livre, dans ses fragments, dans ses lettres, parce qu'il nous reste quelques titres, quelques lettres seulement sur les centaines de titres qui ont été publiés à l'époque d'Épicure. On connaît Épicure surtout par d'autres philosophes qui l'ont connu ou qui y font référence. Alors, pour lui, donc, la nature, c'est un désordre, c'est un chaos. Mais ce désordre-là est créateur. La nature est une suite de chaos et d'organisation. Effectivement, c'est un peu ce que les scientifiques modernes nous répètent et nous démontrent aussi, une suite de chaos et d'organisation. L'entropie, d'une part, qui est une perte d'organisation, mais l'organisation, d'autre part, qui a donné lieu justement à des espèces vivantes, dont l'être humain. Alors, le fond éternel de la nature est donc un désordre fondamental, et ce désordre-là produit l'ordre, parce que l'ordre n'est qu'un cas particulier du désordre. La nature, dit-il, dispose d'un temps infini, et quand on dit ça, c'est Marcel Conche, puis c'est aussi Épicure qui le dit. La nature dispose d'un temps infini, c'est ainsi qu'elle est créatrice. De ce désordre fondamental naît continuellement l'ordre du monde. Et Marcel Conche aime bien dire que la nature, un peu comme Lucrèce d'ailleurs, qui est un épicurien, la nature, c'est le poète premier. La nature est créatrice. Et cette créativité-là vient du hasard, vient du rapport entre la nécessité, le hasard et la nécessité. La nature, on ne peut pas préjuger, on ne peut pas préjuger de ce que la nature est capable de produire. Il y a, dit-il, qu'une nature, mais la nature n'est pas une. La nature est la totalité des choses, une totalité de monde. Ça, c'est très épicurien. Ces mondes-là sont dissemblables, incommunicables. Par exemple, la petite souris n'a rien à dire à l'abeille, réciproquement. Il existe donc une infinité d'espèces, donc une infinité de mondes dans notre monde, et il y a plusieurs mondes, selon Épicure, et Marcel Conge semble être d'accord avec le grand philosophe. Alors, cette nature est le tout de cette infinité de mondes. Il dit ceci, et ça nous fait réfléchir, bien entendu, quand il parle. Quand j'écoute la nature, je suis partagé entre le sentiment de la multiplicité et celui de l'unité fondamentale, parce que la nature, justement, elle est infinie et indéfinie, la clé de la sagesse, et qu'il faut penser toute chose sur un fond d'infini. Alors, c'est un peu la philosophie de Marcel Conche, la philosophie d'Épicure, et aussi la philosophie de Montaigne. Il s'inspire beaucoup de Montaigne, Montaigne s'inspirant lui aussi beaucoup de Lucrèce et d'Épicure. Alors, on a donc, dans ce petit livre-là, Épicure en Corrèze, un excellent résumé à la fois des grands penseurs grecs de l'Antiquité et en même temps d'un philosophe moderne très proche de la science, très proche de la nature, très proche des capacités de connaissances que possède l'être humain. Alors, c'est un livre à lire. Il se lit facilement. Il se lit comme un roman, en fait. Et tout est bien expliqué. Marcel Conge est un excellent pédagogue. Il évite autant que possible le jargon universitaire pour que son grand public l'écoute très bien et le comprenne très bien. Jean, es-tu toujours là?
Ben oui. C'est drôle parce que, tu sais, Épicure, il y a comme un paradoxe avec Épicure, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vous parle d'épicuriste, c'est complètement le contraire. Puis d'ailleurs, Marcel Conche a dit, l'épicurien, il cuisine pas.
Non, c'est ça.
C'est le contraire. C'est pas un épicurien tel qu'on le voit aujourd'hui, l'épicurien moderne. C'est pas une fine bouche. C'est quelqu'un qui dit je mange très, très sobre. C'est, en fin de compte, il met un mode de vie très sobre.
C'est ça. Dans le fond, le vrai épicurien s'en fout des plats cuisiniers. Ils cuisinent pas, mais ils cultivent son potager, cependant.
c'est paradoxal.
Oui. Puis quand on va chez Marcel Conche, mais les invités cherchent le sel. Ils cherchent les épices, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la nature telle qu'elle se présente.
Oui. Puis une autre chose aussi, je trouve que Marcel Conche, on pourrait dire aussi que c'est un taureauvien. L'extrait de Walden que je lisais en début d'émission, on pourrait dire que Marcel Conche aurait pu dire la même chose.
Oui,
il parle
oui.
de sa solitude, mais qu'il n'a jamais été seul de sa vie parce qu'il est en amour avec la forêt, la vie. C'est exactement ce que Marcel Conche dit.
Oui, exactement. Puis tout à l'heure, il reste encore quelques minutes à l'émission. Je vais parler plus précisément du sens de la vie puis du bonheur selon Épicure puis selon Marcel Conche, puis on va se rendre compte que c'est très très proche de la philosophie de David-Henri Thoreau.
Ben écoute, on va prendre une pause musicale puis au retour tu pourras nous parler de ça, de philosophie
oui.
de la vie. Alors on prend
D'accord.
une petite pause musicale.
J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin, je vous le dépeins deux points. C'est un gars spécial sans aucun doute, à l'occasion fait les manchettes. Mais il se prend pas pour une vedette, pas d'autres questions, un point c'est tout. Je vois bien comment il fonctionne. La vie, c'est faite pour se faire du fun. C'est un prince sans rire qui l'aurait cru. Près de chez moi, un philosophe en plus. J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin, deuxième voisin. Pour savoir s'il se tient dans le bout, je lui réserve quelques cigarettes. Avec un carton d'allumettes, il va les fumer jusqu'au bout. Je lui laisse ça entre deux portes, c'est pas grave si c'est pas sa sorte. Pis s'il en manque, c'est comme un dû.
Comment ça se fait qu'il en reste plus?
J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin, écoutez bien. Je suis prêt à subir son courroux en vous parlant de choses indiscrètes. Il y a une nouvelle blonde pas mal coquette. Est-ce que cette fois c'est le bon coup? C'est tout à fait dans ses manières de prendre soin d'une célibataire. De la faire entrer dans mon fan club. Va-t-il me faire encore de la pub? J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin, un trifluvien. Ça pourra pas faire de jaloux, car il est pas seul de sa braquette. Ne laissant personne en disette, rendant service un peu partout. Faut que je m'arrange pour que ça dure, qu'il n'y ait pas de chicane de clôture. Comment veux-tu être déçu avec autant d'atomes crochus? J'ai un bon voisin qui reste pas loin, qui connaît très bien le droit. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin de mon refrain. C'est-il possible d'être assez fou pour le décrire dans sa palette? Ça restera pas sur une tablette, encore une chanson à son goût. Il y a de grosses chances de se reconnaître, pour ça que je veux le voir apparaître. Qui me demande d'un air ingénu.
Ça marche dans ça depuis le début.
J'ai un bon voisin qui reste pas loin. Deuxième voisin qui connaît très bien le droit romain. Un bon terrien, épicurien, charmant voisin. J'vous l'ai dépeint enfin.
Alors, c'était Jean-Marc Aurel de son album Une petite pause, la pièce J'ai un bon voisin. Alors, Jean-Marc Aurel qui nous parle de son voisin épicurien.
Oui. Oui, effectivement. Mais justement, c'est Épicure, comme tous les philosophes d'ailleurs, depuis le début, on se pose la question sur le sens de la vie, pourquoi j'existe. Puis encore aujourd'hui, la quête du sens ou la quête de sens est toujours très d'actualité. Alors, Épicure, comme Marcel Conche, pour eux, la vie a son sens en elle-même. Vivre a du sens en soi parce qu'il fait bon vivre. C'est bon de vivre. Ça fait du bien de vivre. On goûte la vie. Alors, la vie, donc, n'a pas d'autre sens qu'elle-même, que son propre... le propre bonheur de vivre, dans le fond. Et c'est pourquoi Conche, comme Épicure, vont développer une philosophie du bonheur qui est toute simple, qui est basée sur la simplicité volontaire, c'est-à-dire l'amitié, la solidarité, la communication. Le désir de philosophie ne va pas, dit-il, sans le désir d'amitié. on philosophe pas tout seul. C'est plate, philosopher tout seul. Le bonheur, c'est qu'on on a à philosopher avec d'autres. Puis le bonheur est prouvé en commun dans la discussion. C'est ça qui rapporte. C'est ça qui est stimulant. Il appartient, dit-il, à l'essence même du bonheur d'être partagé. Alors, la meilleure manière, dans le fond, de partager le bonheur, c'est dans le dialogue, c'est dans la conversation, c'est dans la communication. Mais la communication en présence, la communication entre amis, non pas entre personnes plus ou moins anonymes. Alors, ça, c'est tout à fait épicurien. Et Conche insiste beaucoup dans son livre Épicure en Corrèze. Alors, pour discuter, donc, il faut, selon lui, a priori, accepter de se rendre aux raisons de l'autre, c'est-à-dire bien l'écouter. Puis l'autre, évidemment, peut exprimer ses raisons. Sinon, aucune argumentation sérieuse n'est possible, aucune communication sérieuse n'est possible, si on n'utilise pas, justement, sa propre raison, sa propre les raisons qui font qu'une argumentation se tienne. Alors, c'est pourquoi Épicure, comme Conche, vont être allergiques un peu à l'effusion des émotions qui sont épidermiques et qui ne reposent pas sur la raison. Alors, pour lui, donc, le bonheur est indissociable de la discussion, de l'amitié, et les échanges philosophiques avec les amis sont l'objet d'un désir qui est naturel et nécessaire. C'est les fameux désirs naturels et nécessaires qui sont boire, manger, s'abriter du froid, mais c'est aussi l'amitié, c'est aussi la conversation, c'est aussi le dialogue avec l'autre être humain. Alors, c'est donc important de souligner cet aspect de la philosophie d'Épicure et cet aspect de la philosophie de Marcel Conche, c'est-à-dire le bonheur, tout simple, là. Il ne s'agit pas de consommer du luxe, il ne s'agit pas de se soumettre à la publicité et à la propagande de choses éphémères et brillantes et étincelantes et clinquantes. Il s'agit justement de développer de l'amitié entre nous, les êtres humains. Alors, évidemment, puisque Conche et Épicure parlent du bonheur, ils vont aussi parler forcément puisqu'ils parlent de la vie, ils vont forcément parler de la mort, parce qu'on ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort, puisque la vie est mortelle. Alors, il y a donc d'excellentes réflexions sur la mort, la fin de vie, et ça nous concerne tous. Bien entendu, c'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours. Bien souvent, le sujet de la mort est un sujet tabou. Mais n'empêche que, en philosophie, c'est très important puisque, justement, la vie humaine, la vie, toute vie est mortelle. Alors, l'être humain est donc un produit de nature. Et parce qu'il est un produit de nature, comme tous les êtres naturels, il est condamné à ne vivre qu'un temps. Montaigne disait, justement, la vie est un éclair dans le cours infini de nuit éternelle. Moi, j'aime beaucoup cette petite phrase, cette réflexion de Montaigne. Un éclair dans le cours infini de nuit éternelle, d'éclair entre deux néants, dans le fond. Nous venons du néant, nous allons vers le néant, et la vie est éphémère, est un éclair. Il faut donc en profiter au maximum. Alors, Montaigne n'est pas nécessairement considéré comme un philosophe athée, puisque à son époque, il appliquait la religion catholique de manière rituelle, de manière très, très correcte, très conventionnelle, mais il philosophe, en tant que philosophe, il est sceptique. On peut même dire que Montaigne est un peu agnostique quand il parle quand on le lit dans ses essais. Il fait allusion à Jésus-Christ 5-6 fois, mais il fait beaucoup plus allusion à Épicure, puis aux stoïciens, puis à Socrate, des centaines de fois. Alors, on peut donc dire que pour Montaigne, comme pour les épicuriens, la mort, dans le fond, c'est un peu la fin d'une vie. C'est pourquoi, d'ailleurs, Épicure nous dit, il ne faut pas craindre la mort, puisque quand la mort est là, nous ne sommes pas là. Et quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Alors, pourquoi la craindre? Alors, il ne sert à rien, donc, de fantasmer sur ce qui vient après la vie, puisqu'après la vie, c'est simplement la non-vie. Et ça, on retrouve la philosophie d'Épicure, des stoïciens aussi, de certains stoïciens, et de Montaigne, et bien entendu de Marcel Conche. Il ne s'agit pas là d'une opinion, nous dit Marcel Conche, mais d'une vérité démontrée, puisque il n'y a jamais personne qui, après la mort, a ressuscité pour nous dire qu'il y avait quelque chose après la vie. Alors, la philosophie de la mort chez les grands philosophes, chez Montaigne, chez Épicure, chez Conche, c'est une philosophie de la vie, finalement. C'est la vie qui compte. Ce n'est pas ce qui vient après, mais c'est la vie en elle-même. Et quand on arrive à un certain âge, moi, en tout cas, j'ai en haut, j'ai plus de 80 années de fait. J'ai même passé récemment par une maladie très grave qui m'a placé face à l'inévitable, face à la mort. Puis je me rends compte, dans le fond, qu'au fur et à mesure que je m'approche de la mort, le fait d'être encore de ce monde a un goût encore plus fort. Je goûte la vie comme jamais je ne l'ai goûté. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de film qui a fait fureur dans les années 50, qui s'appelait un film avec James Dean, un film américain qui s'appelait La fureur de vivre. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que la fureur de vivre existe encore à la vieillesse? Moi, je réponds oui, comme jamais, puisque chaque jour, chaque instant est important. On goûte à la vie beaucoup plus qu'à l'âge de 20 ans, puisque justement, nous sommes proches de la fin de cette vie-là. Alors, le bonheur, donc, c'est de considérer la vie comme étant le cadeau, le miracle, le miracle le grand miracle de la nature. Et c'est un peu ainsi que Épicure, Conche, Montaigne et plusieurs philosophes vont construire, c'est à partir de ce constat qu'ils vont construire leur vie, leur manière de vivre et finalement le bonheur de vivre. Alors, je ne sais pas si tu m'écoutes tout
ça. Bien, Jacques, c'est un très beau témoignage que tu nous fais là. On approche de la fin de l'émission, là, ça va finir dans même pas une minute. Je trouve que ça finit en beauté. Dernière petite chose que j'ai remarqué aussi quand tu parles pour Marcel Conche et Épicure, ils disent tout simplement de rencontrer d'autres, écouter les autres. Ça me fait penser au café philosophique, qui sont un exercice épicurien, dans le fond. Tout simplement, le café philo, c'est écouter les autres.
Exactement. Et philosophie tout seul, c'est bien plate, mais philosophie avec les autres, c'est le bonheur.
Ce bonheur-là,
il est partagé.
C'est un exercice.
Le philo, c'est un partage de bonheur.
Exactement. C'est un exercice philosophique par excellence, les cafés philo.
Oui, exactement. Il faut que ça continue, puis il faut que ça qu'on soit contagieux, nous qui les animons.
Ben oui, puis je rappelle aux auditeurs que tu as développé une belle méthode là, pour animer des cafés philo que tu as animé depuis une quarantaine d'années presque.
Ah, quasiment.
Puis
j'ai commencé en
94. Puis là, tu m'as montré ta méthode et là, je prends la relève à Québec. On en anime régulièrement. D'ailleurs, il va en avoir un là, le 16 de mai là, à la librairie La Liberté. Pour ceux que ça intéresse, mais il faut téléphoner pour s'inscrire parce que on prend les inscriptions. S'il y a trop de monde, ça va pas trop bien, c'est tout.
Une chose est sûre, Jacques, c'est que la simplicité volontaire doit justement être une bonne occasion de mettre de la philosophie dans nos vies. Puis quand on met de la philosophie dans nos vies, on peut pas faire autrement qu'être plus heureux, qu'être plus jouisseur, qu'être plus épicurien, mais dans le bon sens du mot.
Écoute, c'était très beau aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ta présentation. Puis, il va rester encore le mois de mai.
On s'en parle.
On va t'attendre pour une autre émission au mois de mai. Alors, là-dessus, je te souhaite une belle journée et aux auditeurs. Puis, on se revoit la semaine prochaine.
C'est la grande chance. Bonne journée, tout le monde.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde Musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?